نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الشيخ رحمة الله عليه الشرط الخامس إزالة النجاسة العلماء قالوا من شروط الصلاة إزالة النجاسة إذا صلى المسلم بثوبه نجاسة وهو عالما بذلك بطلت صلاته العلماء قالوا من شروط الصلاة إزالة النجاسة parmi les conditions de la prière C'est le fait de nettoyer, d'enlever l'impureté. Le fait d'enlever l'impureté ou bien de nettoyer l'impureté, ceci est obligatoire. Que l'impureté soit sur le vêtement ou bien sur le corps ou bien dans l'endroit où il prie. Et les savants sont unanimes sur cela. Et celui qui prie une prière, et il a la connaissance, il a la certitude, il sait, il ignore pas que sur son vêtement, il y a une impureté, et il prie comme cela, sa prière n'est pas acceptée. Wa izalatun najasa min al-wajibat. في هذه الشريعة لأن الأدلة جاءت بكثرة ici le fait d'enlever l'impureté que ce soit sur le corps sur le vêtement ou bien dans l'endroit où on prie fait partie des obligations et les preuves sur cela il y en a beaucoup Parmi ces preuves, je vous résume, le bédouin qui a uriné dans la mosquée du prophète alayhi salat wa salam. Alors le prophète alayhi salat wa salam a ordonné de verser de l'eau sur l'urine pour nettoyer. Aussi, lorsque le prophète alayhi salat wa salam est passé devant deux tombes, il se faisait châtier. L'un d'entre eux, qui se faisait châtier dans la tombe, il ne se préservait pas de son urine. Cela nous prouve l'obligation d'enlever l'urine ou bien l'impureté, car cela cause du châtiment dans la tombe. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salat wa salam a éclairci: la plupart des gens qui se font châtier dans leur tombe à cause de l'urine. Donc ces preuves sont claires, wadih, qu'il faut obligatoirement enlever l'impureté, soit sur son vêtement, soit sur son corps, sur sa main, etc. ou bien dans l'endroit où il prie. C'est-à-dire, il enlève l'impureté. Par exemple, lorsqu'il y a de l'urine sur la main de la personne, il est obligatoire de laver, pas d'asperger. فيجب على العبد أن يطهر هذا المكان يغسل بالماء لأن الأصل في الطهارة يكون بالماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Lorsque la personne a de l'urine, que ce soit sur sa main ou bien sur son vêtement ou bien sur le sol, il se doit de nettoyer avec de l'eau. Pas d'asperger, pourquoi? Car cette impureté, l'urine de l'homme ou de la femme, elle doit se laver. Et nous, on asperge de l'eau, on nettoie, on met l'eau et on nettoie, on frotte. Même sur le vêtement, si il y a de l'urine, on met de l'eau et on frotte afin de faire partir l'impureté. Sur l'endroit, sur le sol, pareil, frotter. Ceci fait partie des obligations, comme on a vu à travers l'épreuve. قال الشيخ أي من البقعة التي يصلي عليها ومن الثياب والبدن كما قال الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. Donc ici, Cheikh nous évoque, parmi les conditions de la prière, nettoyer la souillure, enlever les impuretés. C'est-à-dire de l'endroit où l'on prie, des vêtements et du corps. Hadith Salat, de l'endroit où on prie, du vêtement, sur le vêtement et le corps. Et selon le verset, dans le sens, et tes vêtements purifiés. هذا الشرط مجمع عليه أجمع العلماء على ذلك ولا خلاف بينهم كما ذكر ذلك ابن عبد البر. Le fait d'enlever les impuretés, nettoyer les souillures, ceci est une condition parmi les conditions de la prière et les savants sont unanime sur cela. Pas de divergence. Lorsque les savants sont revenus aux preuves, ils ont vu que c'est une obligation de prier en étant pur, pas avoir d'impureté. Car celui qui se faisait châtier dans la tombe, il a délaissé quoi? Une obligation. L'obligation de quoi? De nettoyer son urine. Et les savants sont unanimes sur cette condition. Et celui qui prie avec un vêtement lié à de l'impureté, volontairement, il a la certitude et il est en train de prier et il sait sa prière est caduque. Mais il y a des situations, plusieurs, qu'on va évoquer, inshallah. At-tahara yakun bilma. À la base, on purifie l'endroit où il y a l'impureté, que ce soit sur le corps, ou bien sur le vêtement, ou bien sur le sol, avec de l'eau. On purifie avec de l'eau. La base, c'est l'eau. L'eau enlève l'impureté complètement. Et Allah Jalla Jalalu, dans le Coran, nous a évoqué qu'il a fait descendre une eau, tahor. C'est-à-dire, cette eau-là, elle est pure et elle rend pure. Elle purifie et elle est pure. Elle est purifiée. Que ce soit que tu nettoies les impuretés, bima il matar, ou el bir, ou que tu nettoies l'impureté avec l'eau de la pluie, l'eau du puits, l'eau du robinet, l'eau de la mer, car aussi elle est pure, rien ne la souille. المسألة هنا أنواع النجاسة. النوع الأول النجاسة المغلظة كالكلب والخنزيل، هذه تسمى النجاسة المغلظة. النوع الثاني النجاسة المخففة كبول الصبي المرضع الذي لا يأكل الطعام. إذا بال على ثيابك يكفيك أن ترش الماء على هذه النجاسة المخففة. النوع الثالث النجاسة المتوسطة كبول الأدميين، وكذلك يدخل في ذلك المذي، يدخل في ذلك كل ما خرج من السبيلين من القبل والدبور، البول والغائط. واو، هذه تسمى النجاسة المتوسطة، وهذه النجاسة ليست مخففة ولا مغلظة. Ici donc, les ulama disent, les impuretés, il y a trois catégories. La première catégorie, c'est najasa mughallada, l'impureté qu'on peut traduire par extrême, comme le cochon, la bave du chien. Ceci est une impureté extrême. La preuve, le prophète alayhi salat wa salam, lorsqu'il nous dit, lorsqu'un chien vient laver dans un récipient, de laver 7 fois et 1 fois avec de la terre. Ça nous prouve que cette impureté-là, elle est extrême. Comme aussi le cochon tout entier, il est impur. Et comme vous savez, il est interdit de le manger, car il est impur et ça ramène des maladies. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, al-najasa al-mukhaffafa, l'impureté qui est légère, mais ça reste de l'impureté. Par exemple, un petit garçon qui prend l'allaitement et il ne mange pas. Son urine, lorsqu'il urine sur le vêtement du père ou de la mère, cette urine, elle est mukhaffafa, légère. Il te suffit juste de prendre de l'eau et d'asperger dessus, comme cela. Tu prends, t'asperges. Comme m'a fait le prophète, alayhi salat wa salam, lorsqu'il y avait un enfant qui était allaité, qui a uriné sur le prophète, alayhi salat wa salam, il a aspergé avec de l'eau. Ça suffit. Pas besoin de nettoyer. S'il mange, là... S'il prend le lait de la maman, non. Son urine est une impureté qui est légère. La troisième, al-najasa al-mutawassita, celle qui est intermédiaire. Ni elle rentre dans la première, ni dans la deuxième. Ni dans la première, ni c'est une impureté extrême et ni elle est légère. Par exemple, l'urine des hommes, des femmes. Et les savants disent ce qui sort des deux voies. devant et derrière. L'excrément, l'urine, que ce soit l'homme, la femme, le madi, le liquide pré-éjaculatoire, celui-là aussi, il est impur. Il rentre dedans. Ce qui sort des deux voies. Celle-là, elle est nommée Al-Najasa Mada Mutawassita. Comment on la lave? Tu frottes avec de l'eau. Tu mets de l'eau et tu frottes. Est-ce que la machine rentre dedans? Naam. Les machines à laver. Naam. Ça lave. Ça enlève l'impureté. Elle asle avec de l'eau. Lorsque l'homme ou bien la femme fait ses besoins naturels, à la base, c'est l'eau. L'eau enlève l'impureté complètement. Le musulman, la musulmane se doit de se purifier comme il se doit. Bilma, wadeh. Donc, faut nettoyer, frotter. Si l'urine, elle est là, par exemple, sur le sol, on dit que il n'y a pas de moquette, c'est du lino. Tu mets de l'eau et tu fais partir dans les égouts. La baisse. Avec la raclette. Vous voyez? S'il y en a dessus, tu laves, tu mets de l'eau et tu frottes. Hada wajib. Vous avez vu la différence entre les trois catégories d'impureté. Wal aslu fi at-tahara huwa al-ma'. Fa in kanat an-najasatu fi al-ard yusabbu 'alayha al-ma'. Wa in kanat fi ghayriha tughsal hatta tathur. Donc Cheikh, il nous dit la base dans la purification de la souillure, de l'impureté, est qu'elle soit faite avec de l'eau. Excepté avec une excuse. À la base, tu fais avec de l'eau. Donc, Cheikh, il nous dit, si la souillure est sur le sol, on verse de l'eau. Et si elle est autre que cela, on la lave jusqu'à la nettoyer. Comme je vous ai expliqué. Si elle est sur le sol, on verse de l'eau en fonction de ce qu'il y a sur le sol. Si c'est de la terre, comme dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, le bédouin qui a uriné dans le masjid du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est connu que c'était de la terre. Donc, ils ont versé de l'eau, et on sait que l'eau purifie la terre. Et cela est suffisant. Sur le lino, par exemple, tu mets de l'eau et tu fais partir. Complètement. Sur la moquette, comme on l'a expliqué, il faut frotter. Maintenant, les situations des gens. Lorsque l'impureté a touché le vêtement. La première situation, le musulman qui prie, alors qu'il a la certitude, il n'a pas de doute, ni waswas. Il a la certitude que sur son vêtement, il y a une impureté. C'est pas il l'oublie, comme on va le voir. Ça, c'est un autre sujet. Il a la certitude. Il sait, il se lève. Il sait qu'il a l'impureté. Allahu Akbar. Il rentre en prière et il prie. Il le fait volontairement. Ici, sa prière est caduque, annulée, pas acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il l'a fait volontairement et la cause, il a délaissé une obligation et cette obligation est d'enlever l'impureté. Si par exemple le musulman, avant la prière, il a pris connaissance, il sait avec certitude qu'il a de l'impureté. Il voulait la laver mais il a oublié. Il a oublié, c'est pas volontaire. Il n'est pas rentré en prière, il sait, non, il a oublié. Il rentre en prière, Allahu Akbar, et il se rappelle pendant la prière qu'il est sûr qu'il a une impureté sur lui. Ici, il y a deux situations. La première, soit il enlève pendant la prière son vêtement, il l'enlève. Si ce vêtement cache la aura, là, il sort de la prière.
si son vêtement cache la aura, par exemple, il prie en pantalon large. L'impureté, elle est sur le pantalon. S'il l'enlève, qu'est-ce qui va se passer? Il y a sa aura, ça. Et satr al-aura, ça va venir. C'est une condition parmi les conditions de la prière. Donc dans cette situation, il sort de la prière. Il nettoie l'impureté et il rentre en prière. Deuxième situation, celle qui est arrivée au prophète alayhi salat wa salam. Lorsque Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salat wa salam, car il y avait une saleté. Pendant la prière, le prophète alayhi salat wa salam a enlevé ses sandales. Sahaba ont suivi le prophète alayhi salat wa salam. Le prophète alayhi salat wa salam a enlevé les sandales. On sait que les sandales, c'est pas une obligation. Ça couvre pas la aura. Tu peux l'enlever en prière. Et il a enlevé en prière les sandales, il a continué sa prière jusqu'à la fin, pas besoin de la refaire. Par exemple, tu te rappelles que tu as une impureté, un blouson, t'as un khamis en dessous, un blouson. Là, en prière, tu te rappelles, tu l'enlèves. T'enlèves le blouson. Tu le poses, tu continues ta prière, elle est bonne, inshallah. En application du hadith du prophète, alayhi salatu wasalam. Si par contre, tu sais, tu continues, ta prière, elle est caduque. Ça, c'est une des situations. La troisième situation, certains des musulmans ne savent pas, ne connaissent pas. Surtout ceux qui sont nouveaux dans l'islam. Certains ne savent pas, par exemple, que le liquide préjaculatoire est impur, etc. Il y en a, ils ne savent pas cela. La personne ignore le statut religieux. Et il prie comme cela. Sa prière, elle est bonne jusqu'à qui sait. Une autre situation. Celui qui a oublié, sa prière, elle est bonne. Celui, par exemple, qui a oublié, jusqu'à qu'il a fini la prière, il se rappelle. Mais j'avais de l'impureté sur moi. Là, sa prière, elle est bonne. Pourquoi? Il a oublié. Et Allah, Jalla wa Ala, ne prend pas en compte celui qui oublie. Ici, par exemple, une des situations, celui qui n'est pas sûr à 100% qu'il a une impureté, mais à 80%, il sait, il pense qu'il a une impureté. Il n'est pas sûr, mais comme s'il était sûr. Mais il n'est pas sûr. Il n'a pas le yaqin. Qu'est-ce qu'il fait? Les savants disent, le meilleur dans cette situation, c'est qu'il lave le vêtement ou l'endroit où il y a la pureté. Il sort de la prière. قال الشيخ الشرط السادس ستر العورة يقال في اللغة ستر وستر كلاهما جائز. قال ستر أو ستر العورة وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه كما قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. Donc la condition qui suit من شروط الصلاة ستر العورة على الرجال وعلى النساء وعلى الشباب وعلى الشيبان على الجميع. Donc ici, parmi les conditions de la prière, le fait de couvrir sa nudité. Cheikh nous dit, la nudité désigne ce qu'il est obligatoire de couvrir et qu'il est malsain de découvrir, ce dont on a honte. Comme Allah Jalla wa Ala évoque dans le verset, ô enfant d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez vos parures. C'est-à-dire, les savants disent, les lieux de prière. Prenez vos parures. Ma'na huna, qala al-ulama, dalil ala ujub satr al-awra. Ay usturu عوراتكم وأنتم في الصلاة. المسلم عليه أن يكون على هيئة طيبة حسنة في الصلاة وهو أمام الله سبحانه وتعالى. إن الله جميل يحب الجمال.
Ici donc, dans le sens du verset, ô enfant d'Adam, dans chaque lieu, chaque mosquée, dans les lieux de mosquée où vous faites la prière, portez vos parures, vos habits. Les savants ont dit, portez vos parures, vos habits. Il y a ici l'ordre de couvrir ces parties à couvrir. من السراء إلى ركبة يدخل في ذلك العاتقين. Les savants disent dans le verset d'Allah Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne qu'on prenne nos parures, nos belles parures, qu'on se couvre. Couvrez vos nudités. L'homme, sa nudité, c'est du nombril au genou, mais aussi avec les deux épaules, comme cela est rapporté. En se basant dans le verset d'Allah Jalla wa Ala, le musulman, il se doit, en plus de cela, en plus de couvrir sa nudité, de venir avec une bonne apparence. Beau, belle parure, propre, car il est devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez mes chers frères, lorsque les gens ils vont se présenter à un patron, lorsqu'ils vont se présenter pour un travail, lorsqu'ils vont voir des gens de la famille, ils se font beau, ça. Ils se parfument, ils se font beau. Mais quand c'est pour aller faire salat, prier dans les maisons d'Allah, ils négligent. Alors que la personne et devant Allah, al-Khaliqu, al-Raziqu, al-Mudabbiru, li jami' al-Umur. Subhanahu wa ta'ala. Tu es devant le Créateur, le Pourvoyeur, celui qui gère l'ensemble des mondes. Donc on doit venir avec une bonne apparence. Des vêtements larges, etc. Le pantalon est permis, mais il ne faut pas qu'il décrit les formes. Comme on va le voir. Et les savants voient la prière, elle est caduque sinon. Certains voient ça. Le muslim, il se présente à Allah Jalla wa Ala d'une bonne apparence. Parfumé, propre. Avoir des vêtements qui ont une bonne odeur. Muhammad. Afin d'appliquer la parole d'Allah Jalla Jalla. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Prenez vos parures. Allah aime dans le hadith. Allah aime. Allah il est beau et il aime ce qui est beau. Kama kulna. Al-awra. شرط من شروط الصلاة من صلى عليان فصلاته باطلة بالإجماع إلا من عذر شرعي excepté celui qui prie sans vêtements nu point de prière elle n'est pas acceptée ça peut arriver une personne emprisonnée quelqu'un qui est torturé, ça arrive. T'es dans une situation, tu sais pas. Il est interdit de prier sans vêtements, excepté avec une excuse religieuse. Tu es attaché, tu ne peux pas bouger. La personne prie avec un vêtement, ça couvre sa nudité, laquelle on voit la couleur de sa nudité, de sa peau à travers. Salat batila. Sa prière, elle est caduque. On ne doit pas voir la peau à travers. Là, car ici, la nudité, elle n'est pas cachée. Voyez ? Donc, le fait de couvrir la nudité, comme on a évoqué, mes chers frères, ceci est une condition, parmi les conditions de la prière. L'homme, c'est quoi sa nudité ? La nudité de l'homme, les savants disent, du nombril jusqu'au genou. Du nombril jusqu'au genou. Vous voyez, c'est ça. S'il couvre cela, pour selon certains savants,
salat sahiha. Mais certains ont dit, le mieux, afin de sortir de la divergence, couvrir aussi les deux, les épaules. Donc des épaules jusqu'aux genoux. Taillé. Ça c'est la aura concernant l'homme. Wa aura al-mar'a ma hiya. Kulluha aura. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. La femme est une aura tout entière. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a éclairci, la femme est une aura, est une nudité de base, entièrement. Ici, la femme, sa nudité pendant la prière, elle prie avec son voile, elle couvre tout le corps, excepté son visage et ses mains. Elle prie comme cela. Car les pieds, il y a divergence, le mieux c'est qu'elle les couvre. Si la femme prie et ses cheveux sortent de son voile, as-sala batila. Sa prière, elle est caduque car ça fait partie de la aura de la femme, la nudité de la femme. Elle prie en pantalon, un jilbab juste, elle couvre la tête, pantalon, salat batila. Il faut que le vêtement soit large, comme pour l'homme, comme pour la femme. Si elle prie avec un vêtement transparent, salat batila. Concernant l'homme, Nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam أوجب علينا أن نستر عورتنا في الصلاة وفي غيرها. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي وللجميع لهذه الأمة. L'homme, il se doit de couvrir sa nudité, en prière et hors prière. Ceci est une obligation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné à Muawiyah, radiallahu an, préserve ta nudité, cache ta nudité, excepté devant ton épouse. Donc, que dire en prière? L'homme, il se doit de couvrir sa nudité, en prière ou hors prière. Et ceci est une obligation. Comme on a évoqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de couvrir la nudité. Hors prière. Les savants ont divergé. Certains disent, celui qui prie avec un vêtement serré, sa prière elle est caduque. Car ils disent, parmi les conditions de l'acceptation de la prière, c'est que le vêtement soit wasi'an, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et non dayiqa, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Certains savants voient que la prière elle est caduque, certains voient qu'elle est acceptée avec le péché. Mais dans cette situation, c'est quoi le mieux, mes chers frères fillah? Quand il y a une divergence sur des sujets comme ça, on sort la divergence. C'est l'au-delà, ton au-delà, ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vas mourir, personne avec toi. Muslim yantabi ala nafsi. Et il se doit de prier avec un vêtement qui est large. Qal wa lihada man salla wa huwa 'arin laysa 'alayhi thiyabun fa salatuhu batila. بإجماع أهل العلم إلا إذا كان فاقدا لها وجاء أيضا في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني المراد حائض المرأة البالغة. Ici donc, c'est pour cette raison, celui qui prie pas habillé, nu, sa prière n'est pas acceptée. Car il n'a pas de vêtements. Sa prière est invalide, et cela, les savants sont unanimes, les gens de science. Excepté avec une excuse, comme on a évoqué. sauf si il est dans l'incapacité de s'en procurer. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wasalam dit: Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui a ses menstrues. Yani ha'id, al-murad huna al-mar'a al-baligha. Celle qui a les menstrues, c'est connu, elle est pubère avec ses menstrues. Une fois qu'elle a les menstrues, elle est pubère. Excepté, sa prière n'est pas acceptée, excepté avec al-khimar, le voile. Si elle prie sans voile, la salat alaha. Toute la femme est une nudité, excepté son visage et ses deux mains en prière. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين ومن عباده الصالحين ولا الضالين ولا المضلين.